VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel. Dans 5 minutes, l'Amérique et vous avec John Lindon. Mais tout d'abord, les nouvelles. Fin du sommet du G20 à Hangzhou, dans l'est de la Chine. Dans le communiqué final de la réunion, les dirigeants des plus grandes économies développées émergentes du monde ont appelé à recourir davantage aux dépenses publiques et pas seulement aux assouplissements monétaires pour relancer une économie mondiale en berne. Ils exhortent aussi à doper l'innovation pour en faire un moteur de croissance. Les participants à la réunion se sont accordés pour s'opposer au protectionnisme et soutenir le système d'échanges commerciaux multilatéral. Toujours concernant le sommet du G20, les participants ont exhorté l'ensemble des pays du monde à renforcer leur aide et à mieux coordonner les efforts internationaux pour s'attaquer à la crise des réfugiés et partager les charges correspondantes, selon le communiqué final. Nous appelons à renforcer l'aide humanitaire en faveur des réfugiés et nous invitons tous les États, en fonction de leurs capacités propres, à intensifier leur aide aux organisations internationales compétente, souligne le document. Rappelons que la guerre en Syrie, qui a fait plus de 290 000 morts, a poussé à la fuite plusieurs millions de personnes depuis mars 2011, provoquant un désastre humanitaire qui a affecté notamment l'Europe. Au Gabon, reprise des activités dans un calme précaire après plusieurs jours de paralysie due aux violences accompagnées du pillage qui ont suivi. L'annonce contestée de la réélection du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 27 août. Les autorités ont procédé à des centaines d'arrestations. Le point avec Jean-Rovis Dabani, notre correspondant à Libreville.
Près de 1500 personnes ont été arrêtées et selon le commandant-chef de la police nationale, il s'agit des pillards et des casseurs. C'est ce qui inquiète les avocats et les membres de la société civile. La situation des opposants reste floue puisque les 26 personnes retenues dans le QG de l'opposant Jean-Ping à Libreville ont été libérées après des négociations menées par le diplomate onusien Abdoulaye Batili, qui est le patron du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et on se souvient que dans son discours, le premier du genre depuis la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, Jean-Ping a appelé ses partisans au calme, réclamant à nouveau le recomptage de voix bureau par bureau, ce qui ne prévoit pas la loi. À Libreville, le dispositif policier a été allégé dans les quartiers qui ont connu des violences, à l'exception du palais présidentiel, dont les accès sont restés bloqués par des blindés de la garde républicaine.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Gabon, reprise des activités dans un calme précaire après plusieurs jours de paralysie totale due au viol. Au Mali, le Parlement se penche demain à Bamako sur un projet de nouveau code électoral qui renforce les conditions exigées aux postulants qui font acte de candidature à la présidence du pays. Modibo Dembélé a demandé au professeur Amadou Tiolé Diarra, avocat au barreau malien, si ce plan ne vise pas à limiter le nombre des candidats à la présidence.
Politiquement, oui, pour la simple raison que en fait, si nous partons du principe que la classe politique se répartit en termes de segments, c'est-à-dire que, évidemment, il y a les représentants des grandes classes, il y a les représentants, en fait, des classes moyennes, et les représentants, en fait, permettez-moi l'expression, des classes populaires. Eh bien, les représentants des classes populaires n'ont forcément pas le moyen, n'ont forcément pas 35 millions, et puis ils n'ont peut-être pas la possibilité et bien d'avoir la caution des 15 députés. Et pour autant, ils ne sont pas moins représentatifs, en fait, que les grandes parties. Parce que la plupart, en fait, si vous voulez, des candidats qui ne se font pas élire, eh bien, la plupart, effectivement, représentent des voix qui ne s'expriment pas, fondamentalement. Donc, une législation du genre, eh bien, qui plafonne et la caution à 35 millions et puis assujettir la participation aux élections présidentielles à la signature de 15 députés et de 15 conseillers municipaux ou de collectivités, vous voyez ce que ça fait. C'est une législation qui exclut en fait des segments importants de la course parce que tout le monde ne se reconnaît pas dans les grandes parties. Ce qui explique justement la création de beaucoup de partis.
Le professeur Amadou Tiolé Diarra, avocat au barreau malien. Et pour terminer, conflit en Syrie, le groupe État islamique a revendiqué aujourd'hui une série d'attaques à la bombe qui ont causé la mort aujourd'hui d'au moins 48 personnes dans au moins 3 villes du pays contrôlées par le régime du président syrien Bachar al-Assad. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
have a dream.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Lyndon, Georges Léonard Sagno et Fred assurent la production de ce programme. Mise en onde de Kif, installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Donald Trump a repris cette semaine la ligne dure contre les immigrés clandestins, une recette qui a fait son succès pendant les primaires. Lors d'un discours virulent mercredi à Phoenix, le candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre a déclaré que toute personne en situation irrégulière serait susceptible d'être expulsée et qu'aucune ne serait régularisée à moins que les sans-papiers ne sortent d'eux-mêmes du territoire et déposent une demande de visa depuis leur pays d'origine. Il a menacé des millions de clandestins d'expulsion, promettant des moyens supplémentaires à la police. Alors, question, que pensez-vous de ce discours de Donald Trump sur l'immigration? C'est la question de l'Amérique et vous ce soir. Nous vous donnons la parole. Vous pouvez intervenir dans cette émission en direct en composant le 001-202-619-3140 ou sur Facebook. Vous pouvez aussi choisir de poser vos questions directement à nos invités. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous avons Pierre-Georges Bonnefille. Il est avocat d'immigration basé à New York. Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
Restez avec nous. Professeur Jean-Germain Gros est de l'Université du Missouri. Professeur, bonsoir.
Oui, monsieur, bonsoir.
Nous avons Morgane Palmer qui vit à Paris, mais qui se trouve en ce moment à Dakar. Il est journaliste et entrepreneur. Morgane, bonsoir.
Bonsoir, John Lyndon.
Merci d'être parmi nous. Et enfin, nous avons Edgar Ngomeni, il est étudiant et donc venu d'Afrique. On va commencer cette émission. Edgar, oui, c'est Edgar Ngomeni est là. Edgar, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, comment ça va?
Voilà, ça va très bien. Alors, on va commencer par Pierre. Vous êtes spécialiste de la question dont nous traitons ce soir, l'immigration notamment. Qu'est-ce que vous pensez de ces discours de Donald Trump sur les immigrés?
Et actuellement, c'est incroyable, parce que vraiment, ce qu'il a dit, c'est des choses qui sont vraiment un petit peu choquantes, mais... À la même fois, c'est sa façon de penser, mais je vois que vraiment, et on se demande, beaucoup de nous qui travaillent dans ça, dans ce domaine-ci, est-ce que c'est quelque chose qui est vrai, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il va faire, comment qu'il va faire toutes ces choses-ci. C'est vraiment, vraiment choquant. J'ai beaucoup de clients qui sont totalement et sans parole, on peut dire, parce qu'on ne sait pas vraiment. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu aux États-Unis comme ça, vraiment. C'est totalement, comme j'ai dit déjà, choquant.
Voilà. Choquant donc. Professeur Jean-Germain Gros, vous, votre avis, qu'est-ce que vous pensez?
Bon, pour moi, ce n'est pas du tout choquant parce que si on a écouté Donald Trump durant les 10 derniers mois, on sait que ces gens d'idées lui sont propres. Donc c'était un discours tout à fait trumpiste, si je peux le dire. Et par conséquent, démagogique. Mais il n'y a rien de surprenant là-dedans.
Alors, Morgane Palmer, est-ce que ce discours ne ressemble pas un peu à celui que vous avez connu en France avec un certain Jean-Marie Le Pen?
Oui, absolument. On a l'impression de reconnaître une empreinte nationaliste derrière ce discours. Mais moi, je vais avoir deux grilles de lecture. La première, c'est dire que, en général, c'est quand les ressources se font rares qu'on se souvient que le voisin vient d'ailleurs. Et la deuxième grille de lecture concernant ce discours, c'est que quand un politique parle, en général, il s'adresse à un électorat. Ce serait dommage que dans le cadre d'une campagne comme celle-ci,